Bonjour à tous. Merci à l'Assemblée de Dumaine hein, de nous recevoir ce matin. Je dis nous, mon épouse André et moi-même. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. C'est un culte où nous venons témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie. Alors, je disais merci encore de nous accueillir en ce lieu. Ce matin, la tradition veut que l'on honore les papas, n'est-ce pas? C'est une occasion comme tout autre hein, d'honorer les papas. Mais nous savons que tous les papas n'ont pas toujours été corrects. Mais il y en a un, le Dieu créateur du ciel et de la terre qui s'est révélé pour nous comme un papa. C'est celui-là que nous voulons honorer ce matin. C'est celui-là dont nous sommes les témoins ce matin, mon épouse et moi-même. Et c'est de lui que nous voulons vous parler ce matin. Il a dit dans Acte 1, verset 8, que nous recevrons une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur nous et nous serons ses témoins. Ses témoins à Dumaine ce matin. Et c'est ce que mon épouse et moi-même, parce que nous interviendrons ensemble, c'est ce que ce matin nous voulons être, ses témoins. Alors, oui, celui qui s'est révélé pour nous comme étant notre père, notre papa, c'est à lui que tout l'honneur revienne ce matin. Sans lui, tout ce que nous allons entreprendre a une portée limitée. Tout ce que nous allons entreprendre sans lui, disais-je, a une portée limitée. Tout ce que nous allons entreprendre sans lui n'existera pas de manière indéfinie. C'est pour ça que nous aimons bien ce verset qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Amen. Ce verset du psaume 127 au verset 1, eh bien, c'est un verset que nous chérissons, mon épouse et moi-même. Nous le chérissons parce que cette année, nous allons célébrer nos 40 ans de mariage. Alors, c'est vrai qu'il y a mieux, qu'il y a beaucoup plus que ça, mais par les temps qui courent, c'est déjà pas mal. D'accord? Et je répète que c'est un verset que nous chérissons. Nous le chérissons parce que quand on nous a regardé tout au début, pas elle, hein, plutôt moi, compte tenu de mon antériorité et puis compte tenu de la rapidité avec laquelle nous nous sommes mariés, on s'est dit, ça peut que tu es bien. Ça n'ira pas loin. Amen. Mais le Seigneur avait déjà la main posée sur nous. Amen. Alors, mes bien-aimés, je savais que, tout comme mon épouse, que Dieu existait. J'ai reçu, comme pas mal d'entre vous, une éducation religieuse qui me permettait de savoir que Dieu existe. Dieu existe dans sa création. Il est le créateur du ciel et de la terre. Mais que ce Dieu puisse agir dans ma vie, ça me paraissait un peu moins évident. Alors Dieu faisait ses affaires et moi je faisais les miennes. Amen. Sauf que de temps en temps, il y a une question qui me préoccupait. Comment Dieu, un Dieu créateur, un Dieu bon, puisse faire des créatures comme nous, et puis que ces créatures, quelque temps après, puissent mourir. Pourquoi ne m'avait-il pas créé pour que je vive éternellement? Jamais il ne me viendrait à l'idée de créer quelque chose pour que ça meure. Si je crée quelque chose, c'est pour que ça vive et que ça vive éternellement. Alors cette question me préoccupait et j'y pensais et puis j'oubliais. Jusqu'un jour où cette question s'est imposée à moi, comme elle s'est imposée au psalmiste, au psaume 89, verset 4, « Il y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts ?» Lorsque j'ai perdu mon père, cette question s'est encore imposée à moi très fortement. Qui peut échapper à la mort? Qu'est-ce qui existe après la mort? Jusque-là, la mort ne s'était pas approchée de ma famille. À partir du moment où je perds mon père, ces questions existentielles reviennent. Et puis, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Peu nombreux, mes amis, ceux qui peuvent aborder cette question avec une entière sérénité. Ne sachant pas ce qu'il y a après la mort, certains se disent « Mangeons, buvons, car demain nous... » En créole, on dit quoi? En créole, on dit « Embalate pa ni plaisir, en nous ou les connus. » N'est-ce pas? Ça qui fait fête, pa ni a rien appris. D'autres parlent de réincarnation, disent que après la mort, on va se réincarner dans une autre nature pour pouvoir expier les péchés qu'on n'a pas expiés dans la nature avant. Et chaque fois, ce sera des réincarnations qui vont se succéder jusqu'à ce que dans chaque vie, on puisse expier totalement les péchés et arriver à un nirvana, un sommet. D'autres disent que, eh bien, il y aura le purgatoire, une espèce d'antichambre où on va nous mettre là. Et puis, à force de prier pour nous d'en bas vers le haut, eh bien, on aura une chance de passer dans un endroit qui s'appelle le paradis. Et puis, il y a d'autres qui parlent du culte des ancêtres, que nos ancêtres sont réunis ensemble et ils intercèdent pour nous afin que nous soyons protégés. Mais, mes chers amis, aucune de ces suppositions ne me satisfaisait pas. Sans cesse, cette question me taraudait. Il y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir l'amour? Qui puisse sauver son âme du séjour des morts. sauver son âme du séjour des morts. Même la personne qui pense qu'elle est la plus clean, la plus sans faute, même celui qui pense qu'à cause de ses bonnes œuvres, les portes du paradis lui sont ouvertes. Il y a en chacun de nous quelque chose qui nous rappelle que bien souvent nous ne faisons pas le bien que nous devrions faire, mais que nous faisons le mal que nous ne devons pas faire. On a beau donner la façade que l'on veut à ceux qui nous regardent, du fond de notre cœur, cette tension existe. Vous pouvez la cacher comme vous voulez, mais devant Dieu, vous ne pouvez pas la cacher. Alors, après la mort, qu'y a-t-il ? Pourquoi la mort ? Où trouver la réponse à cette question, mes bien-aimés ? Écoutons. Écoutons ce que dit le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie dit : vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et bien aimé, dès que cette question s'est imposée à moi, j'en parlais autour de moi. Je cherchais qui pourrait me donner la solution. Alors, Dieu nous a conduits vers un ami, un ancien collègue qui témoignait en divers endroits de la grâce de Dieu dans sa vie. Et alors nous fûmes invités, comme certains d'entre vous ont dû être invités ce matin, nous fûmes invités non pas dans un milieu ecclésial, non pas dans une église, nous fûmes invités dans un restaurant où cet homme témoignait de ce que Dieu avait fait dans sa vie. À la fin de son message, je fus convaincu de son témoignage. J'étais particulièrement impressionné de cette authenticité que cet homme faisait rejaillir concernant sa vie personnelle. Et alors, j'ai été convaincu qu'il prie pour moi. Et je me suis dit, si tu as rencontré le Seigneur, comme tu dis, j'ai cette question qui me taraude, j'aimerais bien le rencontrer, le Seigneur. J'étais dans cette quête, dans cette recherche. Mon épouse était dans une autre dynamique que moi. Quand j'ai été invité dans ce restaurant, elle m'a accompagné pour savoir la manteca mettait pied moins. Est-ce que je n'allais pas dans une secte? Pour elle, elle n'avait pas de problème. Elle allait à l'église, à la messe, tout était impeccable. Dieu l'avait bénie, brillante étudiante, un foyer, des enfants, tout ce qu'un couple, qu'on peut demander pour son couple. Mais moi, j'avais cette question qui me taraudait. Alors cet homme a prié pour moi, il a fait l'appel, je me suis avancé. Il a prié pour moi. Et par la suite, je vais m'asseoir et je me retourne, je vois mon épouse. qui vient pour qu'on prie aussi pour elle. Alors qu'elle semblait ne pas être concernée. Et puis par la suite, il nous rappelle tous les deux et il veut prier pour le couple. Et nous acceptons. Et je m'attends à l'intervention du Seigneur concernant ma demande. Mes amis, les choses n'ont pas traîné. Le soir, quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai commencé à éprouver quelque chose de particulier que je n'avais pas ressenti avec autant d'intensité. J'ai ressenti une certaine culpabilité, une certaine tristesse, un sentiment d'avoir profondément attristé Dieu, d'avoir profondément offensé Dieu. Vous connaissez l'histoire de ce roi qui s'appelle le roi David. Pour ceux qui ne la connaissent pas, le roi David avait eu une relation avec la femme d'un de ses serviteurs. Et par la suite, voulant impliquer cette relation au mari de cette femme, il avait invité pour qu'il partage un temps avec sa femme pour que cet adultère qu'il commettait puisse passer dans la transparence. Mais cet homme n'a pas voulu accepter cette proposition parce que pour lui, ce n'était pas concevable qu'il vienne prendre du bon temps avec sa femme alors que les autres militaires étaient sur le front. Alors David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est empressé de le faire mettre au premier rang pour qu'il soit tué. Après cela, David est devenu complètement amnésique, oublié, classé, on n'en parle plus. Jusqu'à ce que le prophète Nathan vienne au travers d'une histoire, lui révéler l'ampleur de sa faute. Lui dire à travers une petite histoire qu'un roi avait reçu un autre roi, mais en prenant la brebis d'un de ses serviteurs, au lieu de prendre dans le cheptel qu'il possédait. Et quand on a demandé à David son avis là-dessus, David a dit que cette personne mérite la mort. Bien-aimé, je n'avais pas fait comme David, hein, rassurez-vous. Hein. Mais j'avais commis dans mon couple une infidélité. Sur le coup, j'avais ressenti une petite gêne. Mais ça n'a pas duré, puisque je me suis justifié, je me suis dit, après tout, avec le temps, ça va passer. C'est pas moi qui premier, c'est pas moi qui dernier, ça qu'arrivait tout le monde. Et j'avais enterré l'histoire. Mais maintenant, le souvenir de ce passé, eh bien, ce passé peu glorieux, remontait à la surface. Je me sentais contrit. Je me sentais désolé, non seulement d'avoir offensé Dieu, mais aussi d'avoir trahi la confiance de mon épouse. je me sentais tellement indigne. Et je me disais, est-ce que Dieu pourra pardonner quelqu'un comme moi? Comment me libérer de cette prison? Comment me libérer du sentiment que très certainement je ne pourrais plus être accepté de Dieu? D'abord, j'ai imploré le pardon de Dieu. Je l'ai imploré devant celui qui avait officié mon mariage. À l'époque, comme je vous l'ai dit, nous n'étions pas encore au Seigneur. J'ai été voir ce prêtre qui m'avait marié. Je lui ai tout dit. Il m'a dit, va, lève-toi et marche. Tu t'es repenti, lève-toi et marche. Et il m'a donné quelques prières de repentance à répéter. Croyez-vous que je suis soulagé? Même pas, comme dit mon petit-fils. Même pas peur. Cette chose m'envahissait, cette chose me rendait captif. Je ne pouvais plus la regarder dans les yeux. J'avais ce sentiment de honte. Et puis que faire? Elle m'avait déjà averti. Elle m'a dit, tu sais Gabriel, je connais ton passé. Je te prends tel que tu es. Tu as décidé de mettre ta vie en règle. Je te prends tel que tu es. Mais sache que si tu me trompes, c'est fini. J'étais torturé, mes bien-aimés. Un peu comme David quand il disait que tant qu'il vivait ça, tant que ce péché l'accaparait, tout son corps se brisait au-dedans de lui. Que faire? Pouvais-je rompre le secret sans prendre le risque de briser ma famille? Nous avions déjà deux enfants. Et ça donnait effectivement raison à tous ceux qui ne misaient absolument rien sur nous. Effectivement, nous déjà savons, c'est ça qui était arrivé. Mais en même temps, cette chose me hantait, me harcelait. Et puis, on a beau dire, ça s'est passé loin. Il y avait peu de chances qu'elle puisse le savoir. Mais, et si, par un moyen ou un autre, elle arrivait à l'apprendre de quelqu'un d'autre? Mais ça serait pire. Voilà dans quel dilemme je me trouvais. Alors je me suis résolu de laisser le temps à Dieu de répondre à mon désir de vivre dans la vérité. Non seulement de vivre dans la vérité, mais de rendre justice à mon épouse qui m'avait dit oui, tel que j'étais et malgré la réputation que j'avais. Alors j'ai dit, Dieu, quand tu veux, là où tu veux, crée les conditions, mais je ne peux plus vivre avec ça. je ne peux plus regarder mon épouse l'appeler doudou chéri avec ça. Et un lundi gras, vous savez ce qu'on fait le lundi gras? Vous savez pas? On se moque du mariage le lundi gras, pendant le carnaval. Les hommes s'habillent en femmes, les femmes s'habillent en hommes. C'est le mariage, une institution divine que Dieu a établie à la création, avant même l'Église. Ce lundi gras, de manière inattendue, nous sommes invités à un rassemblement chrétien. Jusqu'à maintenant, ma douleur, je me cachais pour l'exprimer sans que mon épouse puisse me voir pleurer. Mais là, ce jour-là, nous étions en grande assemblée. Mon frère, tu as insisté sur le fait que Dieu peut nous toucher à travers la louange. N'est-ce pas? C'est toi qui as dit ça. Alors, ce jour-là, quand la louange a commencé, j'ai été secoué. J'ai été bousculé. Et là, les larmes sortaient de partout. J'avais beau faire pour me contenir, pour les empêcher de sortir, rien à faire. Glocac sortit tout partout. Et madame, moi, là et puis moi, m'a pas ça aller ni à droite, ni à gauche. Vous êtes avec moi, mes bien-aimés. Alors, je lâche prise. Je lâche prise. Et en rentrant à la maison, je dois répondre à cette attitude. Mais Gabriel, tu as perdu ton papa. Je ne t'ai jamais vu pleurer comme ça. Menté inconsolable. Alors, j'ai pris ce risque. Je dirais, j'ai pris mon courage, parce qu'il faut être courageux. J'ai pris mon courage et je vous dis, jusque-là, comme dit David, tant que je me suis tu, mes os se... Je lui ai dit, voilà, cet homme qui vit avec toi n'est pas celui que tu crois. J'ai fait une bêtise. J'ai eu un moment d'égarement. Je te demande pardon. Silence. Silence. J'ai l'impression que ça durait une éternité avant d'attendre la réponse. Et la réponse, ou fait en bêtise. Sans ça qu'à attendre nous. Il a déjà averti. Il a dit où ça. Et au fond de moi-même, très certainement, vous penserez que c'est un risque que j'ai pris, mais je m'étais dit au fond de moi, je préfère vivre dans la vérité que de continuer à être hypocrite face à une personne. Et j'avais le sentiment que, en faisant ainsi, Dieu agréait la décision que j'avais prise. Et je vais appeler mon épouse qui va vous donner la réponse. Mets-toi là.
Bonjour mes frères et mes sœurs. Donc, c'est vrai qu'à l'inverse de Gabriel, qui s'était préparé avec le Seigneur pour avouer son infidélité, moi, je n'étais pas du tout, mais alors là, pas du tout prête à accueillir ni à entendre un tel aveu. Parce que d'autant plus que moi, j'estimais que j'avais fait de mon mieux pour assurer la stabilité dans mon couple. J'avais fait tous les efforts. Et pour moi, face à une trahison sans justification, il n'y avait pas d'autre réponse que la rancune et la sanction. Parce que moi, je vivais un peu dans ma propre justice. Ben, c'est vrai que depuis quand j'étais petite, je priais, on allait à l'église, même si je n'avais pas la révélation. J'essayais de mener une vie droite, d'être agréable au Seigneur. Et c'est vrai que quand on a entendu le témoignage, je me suis avancée, mais je me suis dit, ben, Seigneur, je te connais. Et pour moi, c'était, voilà, j'étais venue concrétiser quelque chose que j'avais déjà, ma relation avec Dieu. Donc là, je n'avais pas d'autre réponse. Et j'ai entendu une voix dans mon cœur qui m'a dit, pardonne. J'ai entendu une voix dans mon cœur qui m'a dit, pardonne. Et j'ai obéi. J'ai obéi. Et j'ai dit à Gabriel, Gabriel, je te pardonne. Et là, en fait, c'est comme si je vivais quelque chose de surréaliste. Je n'avais pas de colère, je n'avais pas de peine, je n'avais pas de frustration, j'avais une grande paix. C'est comme si le Seigneur avait pris une gomme et avait effacé toute la douleur de l'offense. Et chose étrange, eh ben c'était moi l'offensé qui consolait l'offenseur. C'était moi l'offensé qui consolait l'offenseur. Et c'est vrai que le soir, quand je me suis couchée, j'avais une grosse pression, puis des questions, parce que j'étais quelqu'un, déjà, non seulement je vivais dans ma propre justice, mais en plus, j'étais quelqu'un qui était très réfléchi. Et quand on m'avait fait quelque chose, je prenais le temps de méditer sur ce qu'on m'avait fait. Et là, j'avais une grosse pression. Mais c'est comme si le Seigneur gardait mon âme. Le Seigneur gardait mon âme, le Seigneur me gardait dans la paix. Et le lendemain matin, je me suis réveillée comme à mon habitude. L'affaire était classée. L'affaire était classée. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux reprocher n'importe quoi à Gabriel, même des petites choses. Mais cette chose-là, je ne suis pas revenue dessus. Parce que le Seigneur l'avait traité. Et je peux confesser aujourd'hui que parce que j'ai obéi à la voix de Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. Moi, je croyais que je n'avais rien à me reprocher, mais je vivais dans ma propre justice. Je ne savais pas ce que c'était que la grâce. Et quand le Seigneur m'a dit pardonne, le Seigneur m'a amené à faire grâce à mon mari. Mais quand j'ai obéi, le Seigneur lui-même m'a fait grâce parce qu'il a effacé la douleur de l'offense. Et ce matin, je veux témoigner que Dieu est bon, Dieu est grand. Et quand on lui obéit, le Seigneur m'a guéri émotionnellement. Et ce Dieu-là, je veux le servir et l'honorer parce qu'il est Dieu. Amen.
Wow. Ça fait 20 ans que ça s'est passé et j'ai encore l'émotion. Je m'attendais à la punition que je méritais. C'est ce que dit la loi. Tu as fait une bêtise, tu es puni. Pourtant, je n'ai eu rien à payer, sinon que j'ai trouvé la grâce. Sinon que j'ai trouvé le pardon. Quel amour. Quel amour manifesté pour moi. Mais ça me paraissait complètement incohérent. Tu as fait des bêtises, tu dois être puni. Et j'avoue mon péché. Je reconnais que j'ai fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et je reçois son pardon. Alors, ma dette a été acquittée, mais qui? Qui a payé à ma place? Qui moun qui fait ça? Qui moun qui fait ça? Jésus qui fait ça. Qui moun qui fait ça? Jésus qui fait ça. Qui moun qui fait ça? Jésus qui fait ça. Et ce verset de l'évangile de Jean a été comme une révélation pour moi. Car Dieu a tant aimé Gabriel qu'il a donné son fils unique pour payer la dette à sa place. Afin que Gabriel place sa confiance en lui et que Gabriel ne périsse pas. C'est là que j'ai compris que j'étais physiquement vivant, mais mort spirituellement. Ce n'est pas la mort physique qu'il faut craindre. Et souvenez-vous, au début de mon témoignage, c'est ça qui me préoccupait. Et Dieu me montre que ce qui doit nous préoccuper, c'est cette mort spirituelle, cet éloignement de lui, dès maintenant et pendant toute l'éternité. En réalité, la véritable mort, c'est de vivre dès maintenant séparé de celui qui nous a créés et de prendre le risque de le rester éternellement. Amen. Et ce matin, je veux, avec le groupe de louanges que je demande de me rejoindre, d'entonner ce petit chant ce chant qui dit que celui qui a fait ça, Jésus, que le nom de Jésus est si doux. Alléluia, gloire à toi. Et nous pouvons nous lever.